Monsieur Michel Vauvel, vous avez bien voulu venir à l'ENS pour une conférence. On va commencer par un petit entretien que vous avez bien voulu nous accorder.
Ça se déroulera en deux temps, donc on reviendra d'abord peut-être sur votre parcours d'ancien élève de l'école, et ensuite une deuxième partie où on abordera peut-être un peu vos travaux sur la Révolution et aussi sur les travaux que vous avez conduits sur la mort.
Bien.
Je voulais vous demander comment était né votre intérêt pour la Révolution française.
D'abord, je vous remercie de m'inviter. Ce n'est pas sans émotion que je reviens, non pas sur le lieu de mes crimes, mais pour visiter ce qui a été mon ancienne école, puisque je suis élève de la promotion 1953. Mais en passant sur ces aspects autobiographique et je réponds d'entrée à cette question. Alors, je ne vais pas financer. Lorsque j'ai passé ma licence à l'école normale de Saint-Cloud, j'étais un historien passionné d'histoire moderne et contemporaine, d'entrée déjà assez délibérément. Mais beaucoup de mes camarades, bien, je suis un jour allé frapper à la porte du grand maître auquel nous nous adressions et qui était Ernest Labrousse. Ernest Labrousse qui dirigeait les enseignements d'histoire économique et sociale à la Sorbonne. Et d'une certaine façon, ce choix était déjà significatif parce que c'est chez Labrousse que se présentaient, disons, les jeunes historiens à sensibilité ou vocation progressiste, pour employer un terme générique. Et bien que Labrousse ait été dénoncé comme un social-démocrate réformiste, eh bien, tous les étudiants d'extrême-gauche allaient quand même s'adresser à lui parce que, sans doute, c'était la référence, en même temps, la plus respectée et celui dont les travaux nous attiraient le plus cette crise de la société française à la fin de l'Ancien Régime. Ceci étant, lorsque je me suis présenté à lui, je voulais, comme tout le monde, faire non pas ma maîtrise, mais mon diplôme d'études supérieures, mon DES, comme on disait à l'époque. Je voulais faire sur la Commune de Paris, comme tout le monde. Et en quoi il m'a répondu que c'était un beau sujet, mais qu'il venait de le donner à mon homologue de l'école normale supérieure, Rougerie. Mais, m'a-t-il dit, je vois que vous êtes né natif de Chartres ou de sa région. Vous allez retourner dans vos archives départementales pour étudier les classes sociales à Chartres à la fin de l'Ancien Régime. Et, ma foi, je suis allé. J'étais très impressionné, il m'avait donné des références d'archives, des séries d'archives, la série C, la série L. Et je me disais, comme il connaît bien les archives de Chartres, mais en fait c'était les références archivistiques classiques, mais je m'en suis bien trouvé, je me suis plongé dans ces archives et dans cette histoire telle qu'on la faisait à l'époque, c'est-à-dire cette histoire sociale dont la référence était, si l'on veut, la formule de Simian, l'histoire compte, mesure et pèse. C'était l'histoire quantitative. C'était l'histoire que Labrousse avait promue dans un discours-programme célèbre du Congrès de Rome 1955 sur les voies nouvelles pour une histoire des bourgeoisies occidentales. Et c'était le fiscal, le notarial, l'enregistrement. Et on comptait. On faisait des comptages, on faisait des approches, des études de structure sociale. Alors, études de structure sociale, quantitative, Cela peut paraître aujourd'hui désuet, répulsif, austère. C'était en même temps assez passionnant. Certes, Albert Sobol, que je côtoyais parfois à l'époque, était un aîné, mais me disait « ne sociologise pas trop, enfin les structures ». Mais finalement, c'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entré en révolution. Et ce sont des études que j'ai poursuivies, que j'aurais pu poursuivre quand j'ai ensuite passé l'agrégation et que j'avais l'idée de travailler sur la paysannerie, mais plus largement sur les sociétés dans ce monde des plaines de grande culture, ce que j'ai prospecté par différentes approches. Les troubles sociaux, les mouvements populaires, les taxations des grains de 1792. Et puis, ça m'a amené à prospecter, à étudier de la mendicité au brigandage dans les plaines de grande culture sous le Directoire, à travailler sur la richesse et la puissance du plus grand chapitre cathédral de l'époque, le chapitre cathédral de Chartres, une étude à la fois sociale mais déjà politique. Et finalement, tout ce qui aurait pu devenir une thèse, je l'ai plus tard, bien plus tard, rassemblé dans mon livre sur le rapport ville-campagne, Chartres et la Beauce au XVIIIe siècle. Il avait fallu d'abord abandonner ce chantier des plaines de grande culture, à la fois parce qu'il était réservé à d'autres, Georges Lefebvre, qui avait encore un magistère d'opinion sur ses travaux, le réservait à un autre, à Jacques Dupaquier. Et puis moi, de mon côté aussi, j'ai quitté le monde de mes racines pour être nommé au bout d'un service militaire de 29 mois, comme les gens de ma génération, d'une partie sur un autre rivage. À mon retour, j'ai été nommé à Aix-en-Provence. Je ne m'en plains pas. Ça a été le début à la fois de ma carrière et puis de ma vie et de mes aventures de vie. Mais j'avais gardé cette attache et au chantier de la Révolution française, on m'avait déjà passé une commande que j'avais honorée. En 1961, mon premier ouvrage, c'est aux éditions sociales, dans la petite collection des classiques du peuple, les textes choisis de Marat. Un exercice de style de commande d'un personnage pour qui je n'avais initialement pas d'attrait, mais qui finalement m'avait passionné. Ça m'a introduit au travail d'écriture. En Provence, je voulais travailler sur la Révolution. Et je dirais même que ma première idée avait été de travailler sur Révolution et contre-révolution en Provence, découvrant la force de ces conflits, tant dans la Provence urbaine que rurale. Et je me suis polarisé, focalisé sur le monde marseillais, le monde marseillais sur lequel je viens enfin de publier l'an dernier, ouvrage de près de 50 ans d'âge sur le sans-culotte marseillais, qui illustre à l'époque ma fidélité à cette histoire quantitative des masses, puisque je voulais, somme toute, en pendant au travail de l'époque publié par Albert Sobol sur le sans-culotte parisien, mettre à l'épreuve un fond de sources particulièrement riche, puisque à partir de registres nominatifs de présence et d'un recensement simultané, je pouvais suivre jour par jour et cas par cas, 5000 sans-culottes au fil de leur évolution et poser la question de savoir comment, si l'on veut, la révolution marseillaise, le jacobinisme marseillais, un temps en pointe, avait, si l'on peut dire un peu caricaturalement, mal tourné, comment il était passé au fédéralisme. Donc une approche, disons, à la fois d'histoire politique, mais d'histoire sociale, puisque elle passait par une analyse d'un recensement, d'un dénombrement de la population 1793, qui est une rareté. Et bon, voilà un travail que j'ai traîné pendant des années, sur lequel j'ai fait travailler ensuite de nombreux élèves, et qui m'a valu de multiples avanies. Quand j'ai demandé plus tard quelques sous pour traiter, grande audace, et à l'époque, par voie informatique, qui était une nouveauté, mais 5000 sans culottes au jour le jour, il me fut répondu par la commission du CNRS que quand on veut des fonds pour des culottes, des sans culottes, on n'a qu'à s'adresser à des tricoteuses. Ce qui fait que ce monument est resté dans mes archives jusqu'à une date récente où je me suis décidé à le publier il y a 2 ans pour ne pas laisser ce témoignage historique non traité. Voilà comment j'étais entré en révolution. Alors, ayant dû abandonner les sans-culottes marseillais après les plaines de grande culture, eh bien, je me suis tourné vers une autre source. Il y a dans ma génération le souci de l'archive. Et ce souci de l'archive, dont vous avez vu les origines, eh bien, m'a amené à me tourner vers une série notariale qui n'avait pas été abordée jusqu'alors, qui était celle des testaments. On travaillait sur l'inventaire après décès, sur les partages successoraux, sur les contrats de mariage. Ce sont les travaux des années 60, travaux de François Furet ou Adeline Domar et d'autres, et ensuite de Daniel Roche. Mais les testaments n'avaient pas été prospectés. Et j'ai été amené à les prospecter dans une perspective particulière. J'ai voulu mettre en valeur la première partie de l'acte testamentaire, c'est-à-dire le testament spirituel, celui dans lequel s'expriment les dernières volontés, c'est-à-dire les traces les plus lisibles ou les plus visibles d'une attitude de pratique, vision collective, de représentation collective qui passe par les gestes de la religion, de cette religiosité que j'ai appelée baroque, avec beaucoup d'imprudence et d'impudence, mais cette profusion, cette prolifération des gestes d'accompagnement, de sépulture, de legpi, qui, d'une certaine façon, reflète sans doute plus que la convention sociale, mais aussi des attitudes collectives. Cette démarche était nouvelle et elle a été, en fait, suivie avec sympathie par certains, par des gens comme Robert Mandrou ou d'autres, ceux qui ouvraient alors le chantier ou la voie ou le territoire de l'histoire des mentalités, alors même que la retraite d'Ernest Labrousse et la concurrence d'une autre historiographie, celle de Roland Mounier, répudiant les dimensions de l'histoire classiste ou sociologisante de Labrousse, prédominait. Alors cette diaspora des élèves d'Ernest Labrousse nous a amenés, quand je dis nous, je songe à ceux qui partent de l'histoire sociale, qui compte mesure et pèse, se sont tournés vers ces autres voies. Je pourrais, sans multiplier les exemples, évoquer celui de Maurice Agulon, qui, dans ses études sur la sociabilité, a témoigné d'une évolution par bien des aspects comparables. Et pour moi, c'est à partir des testaments, mais aussi à partir de l'étude à laquelle m'avait engagé Marcel Reinhardt après la retraite de Labrousse, sur la statistique des prêtres abdicataires sous la Révolution française que je me suis tourné vers ces études d'histoire religieuse. Persévère dans la voie du comptage, du décompte, ainsi dans la statistique des prêtres abdicataires ou dans l'étude de ces 20 000 testaments que j'ai dépouillés à la main par petites fiches manuscrites. C'était l'enfance de l'art ou la préhistoire, la quantification artisanale, mais en même temps, c'était l'ouverture de nouveaux territoires. C'est là, si vous voulez, que l'on se trouve entraîné, comme l'ont dit nos grands ancêtres, comme Saint-Just, à des résultats que l'on n'avait pas prévus. Dans ma thèse, j'étais parti d'une interrogation sur la déchristianisation des Lumières, c'est-à-dire la déchristianisation avant la déchristianisation brutale de l'an 2, la déchristianisation lente ou spontanée, si l'on veut, par diffusion des Lumières et en tout cas par détachement de ces pratiques, de ces représentations de l'âge baroque, ce tournant qui s'inscrit dans les années 1770 et qui fait que le négociant marseillais qui, 20 ans avant, ne pouvait quitter la terre sans commander une dizaine de milliers de messes pour le repos de son âme, a décidé de n'en plus parler ou de faire un silence presque absolu sur ces aspects des testaments spirituels. Alors, j'étais parti d'une interrogation sur la déchristianisation des Lumières et finalement, j'ai poursuivi cette piste en m'attaquant à la déchristianisation brutale de l'an 2, le choc, le traumatisme global de 1794, dans ses aspects, sa morphologie, sa géographie, son évolution. Mais en même temps, mon champ d'étude s'est infléchi puisque en travaillant sur la déchristianisation, j'avais rencontré, si je puis dire sobrement, la mort, les attitudes, les représentations devant la mort. Et c'est un chantier que j'ai commencé, que j'ai poursuivi, développé en parallèle de mes études révolutionnaires. Ces deux voies parallèles, mais sur la mort. En même temps que je dépouillais les testaments, je menais avec ma première épouse, Gabi Vauvel, une autre étude dans les trois années où on a lutté contre sa maladie, et une étude sur la vision de la mort et de l'au-delà en Provence d'après les autels des âmes du purgatoire. Ici, toujours le décompte, dira-t-on, puisque c'est un corpus de plus de 300 autels dans les îles, bourgs et villages de la Provence et de l'arrière-Provence que nous avons menés en suivant l'évolution de l'image, de la représentation de l'au-delà sur ces autels qui, dans ce monde méditerranéen, dans ce monde méridional, sont exceptionnellement nombreux. Et qui, du XVe siècle, XIVe siècle même, pour les plus anciens, jusqu'à nos jours, jusqu'au XXe siècle, laissait la possibilité d'esquisser un trend, une évolution dans la représentation figurée de cet au-delà des Provençaux dans la longue durée, de l'invention du purgatoire jusqu'à son déclin, à son évanescence. Il y avait là encore une autre impertinence, puisque, si je peux le rappeler, cette découverte ou cette prospection venait 10 ans avant le grand livre de Jacques Le Goff sur l'invention du purgatoire. Il l'a inventé, mais nous l'avions, si je puis dire, découvert auparavant de façon beaucoup plus restreinte sur un corpus donné, mais la problématique était installée. Alors, voilà, je crois que j'ai déjà été un peu trop long sur comment j'ai découvert la Révolution française, puisque j'en suis déjà à comment j'ai découvert la mort.
Oui, peut-être revenir également sur votre scolarité à l'école. Vous nous avez dit que vous avez fait partie donc, de la première génération d'élèves à passer l'agrégation, alors que ce n'était pas auparavant la tradition de Saint-Cloud.
Non, Saint-Cloud plongeait encore vraiment ses racines dans ses origines. C'était école normale, primaire, supérieure, qui était censée former des professeurs d'école normale. Et cela impliquait un recrutement. Mes parents, qui étaient instituteurs, je suis fils, comme on l'a dit un jour avec condescendance, on l'a écrit, fils de père et mère instituteurs de village. Et oui, c'est vrai. Mais eux, ils avaient tenté le concours de l'une de Fontenay, l'autre de Saint-Cloud, mais c'était dans les années 1920, ils n'avaient pas abouti. Mais c'était une des voies de la promotion de ces instituteurs qui voulaient aller plus loin. Et alors, lorsque je suis entré à l'école en 1953, il y avait encore une part du recrutement qui se souvenait de ses anciennes origines. N'oubliez pas une chose, c'est que Pierre Goubert, pour entreprendre sa thèse, a dû repasser le baccalauréat. Il avait un brevet supérieur. Comment est-ce que cela s'est passé pour ma génération? C'est dans le contexte de l'émulation ou de la difficulté de s'imposer. J'ai été hippocagneux à Louis le Grand, là, dans cette hippocagne où j'étais compagnon de Michel Serres et de quelques autres, il y a Balibar et autres. Eh bien, j'avais une aversion pour le thème latin. Voilà, je dois vous donner un fragment de confidence. J'avais besoin, comme mon frère jumeau qui lui est devenu biologique, j'avais besoin de concrétiser les résultats. Et je n'étais pas mal placé dans mon hippocagne, mais c'est des années où on regardait avec crainte et respect les pintas qui s'obstinaient à présenter le concours et où l'échec était le sort de réservé à la grande majorité. Ce qui fait que la perspective de préparer l'école de Saint-Cloud s'est ouverte pour moi comme pour d'autres dans ma promotion. Par exemple, Raymond Huard a suivi le même chemin. Nous sommes passés à Henri IV. Et dans cette préparation à Saint-Cloud de Henri IV, où nous avions des professeurs de grande qualité, Michard en lettres, Métivier, qu'on moquait un peu, mais qu'on respectait, en histoire, Labaste en géographie, qui a été un de mes grands professeurs. La géographie a été une de mes tentations. C'est là j'ai présenté le concours, j'ai été collé la première année et j'ai été reçu premier la seconde. J'étais content, mes parents aussi. Et voilà, voilà une histoire bien banale de la promotion des anciennes élites. Plus tard, lorsque je suis arrivé à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, le doyen Bernard Guyon, qui m'accueillait avec bienveillance, me disait « Oh oui, je sais, vous êtes plein de complexes parce que vous ne venez pas de la bonne école. » Mais non, à l'époque, il y avait encore la hiérarchie des honneurs et des mérites entre les deux écoles. Et voilà, je suis quand même assez fier d'avoir, à Saint-Cloud, été de la première génération qui a forcé les portes de l'agrégation. Auparavant, quelques-uns l'avaient passé, mais après, C'était le cas pour Goubert, c'était le cas pour Jacquard également, mais c'était des cas isolés. C'est notre génération qui a présenté l'agrégation, et je songe à Raymond Barre ou à Michel Cocri ou à d'autres, qui a forcé les portées, à partir de laquelle la préparation de l'agrégation est devenue la règle pour les cloutes. Donc c'est là que, comme j'avais passé l'agrégation en troisième année et non pas en quatrième, le secrétaire général m'a dit avec son accent rouergat, on ne va pas vous garder à rien faire. Et on m'a trouvé ce poste que j'ai inauguré d'agrégé répétiteur, ensuite baptisé assistant. J'étais le premier assistant littéraire à Saint-Cloud et j'ai assuré cette tâche pendant 2 ans avant d'être appelé au service militaire, ce qui m'a permis d'être le répétiteur de mes compagnons qui des promotions voisines comme Daniel Roche, Pierre Guillaume et Biget ou quelques autres avant de partir vers d'autres horizons. D'autres horizons parce que quand on m'a relâché enfin de mes conquêtes en Algérie, bien, au risque de susciter l'envie des jeunes générations, je dirais que je me suis vu proposer 3 postes d'assistant. Caen, Strasbourg et Aix-en-Provence. Et finalement, j'ai choisi Aix-en-Provence où j'ai fait ma carrière pendant 23 ans avant de monter à Paris pour les 10 dernières années de ma vie universitaire à la Sorbonne.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du climat intellectuel qui régnait, des influences qu'il y a pu avoir, et du climat politique éventuellement? Je ne sais pas s'il y en avait un.
Ah si, Saint-Cloud. Les échanges intellectuels, je pense qu'ils étaient à la fois très vivaces. L'aspect politique était-il flagrant? Saint-Cloud était une école rouge, enfin, où l'option à gauche ou à l'extrême gauche était majoritaire. Pas hégémonique, pas écrasant, mais il y avait une tradition. Elle se branchait sur une tradition, c'est-à-dire un héritage républicain pour accentuer l'humour. Je rappellerai que l'intendant de l'école de Saint-Cloud se faisait un devoir de donner, et rappelez-vous à l'époque, de donner du beefsteak tous les vendredis. Engagé, nous l'étions plus ou moins. Moi, je l'étais relativement tardivement, mais quand j'étais assistant, j'ai emmené en 58 mes copains ont manifesté contre De Gaulle. Le fascisme ne passera pas. Nous étions bien persuadés qu'il ne fallait pas que le fascisme passe. Et voilà. Puis ensuite, on est parti à la guerre. C'est pas grave. Et il y avait un climat, mais qui n'était pas aussi monolithique que je le suggère ici. Il y avait ce qu'on appelait la troisième force, le courant mendéciste, si vous voulez. Et puis, il y avait des talents, bien sûr, et dont j'ai gardé un bon souvenir.
S'il y a un souvenir frappant, particulièrement marquant, que vous conservez de votre passage à l'école, ce serait lequel?
Je pense qu'avec toutes les turbulences qu'on peut avoir à cet âge, dans tous les ordres des idées, du sentiment, etc., ce sont quand même des années de bonheur. C'est dans ces années qu'il y a eu la titularisation, la fonctionnarisation des élèves des écoles. À partir de ma seconde année, nous touchions un salaire, nous touchions un traitement. C'était tout à fait important, merveilleux. Mon frère jumeau, qui est entré dans une école et qui faisait sa carrière en parallèle où mon frère aîné, n'avait pas cette sorte d'indépendante aisance qui fait que j'ai quand même dans ma famille où l'on avait vendu la voiture automobile en 1940, plus jamais rachetée. C'est moi qui ai réintroduit l'automobile sous la forme d'une 4 chevaux, un peu usagée de seconde main, mais qui a fait de moi un personnage indépendant, l'indépendant. Alors, ça, c'est un aspect, si vous voulez, qui pourrait apparaître un peu sordide. Non, il ne l'est pas. Il était assez fondamental dans cette entrée dans la vie. Les joies, oui, c'est la camaraderie. Il y avait la camaraderie. J'ai le privilège, ambigu, mais d'avoir une turne pour moi tout seul, parce que j'étais le premier de la promotion, et ensuite parce que j'étais assistant. Mais ça n'empêchait pas le voisinage du couloir, des chambres, de la vie en commun, du réfectoire, des sorties, travail en commun. On se partageait les cours et le travail en commun représentait une sorte de solidarité cimentée par la cohabitation. Et par les échanges de lecture, musique et cinéma, nous étions très majoritairement des provinciaux, même ceux qui venaient de Henri IV, mais il y avait des racines provinciales, et en particulier il y avait le solide groupe des Stéphanois qui était structuré, qui formait un bastion, notamment en géographie. Et il y avait cette sorte de solidarité et généralement fraternelle.
Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous ai dit quelques bêtises, non ?